Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Écoutez, le ministre Guilbeault, le ministre fédéral de l'Environnement, est un député de la région de Montréal. Vous le connaissez. Il s'est fait connaître au Québec, au Canada, comme militant écologiste qui manifestait contre les gaz à effet de serre. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, ben, il est ministre de l'Environnement. Et c'est l'homme vers qui on lance beaucoup de tomates aujourd'hui, cette semaine. Pourquoi? Parce que Ottawa a donné le feu vert au projet pétrolier Baie du Nord. C'est au large de Terre-Neuve. Et des dizaines de millions de barils de pétrole vont être extraits de l'océan Atlantique. Il est au bout du fil. Monsieur Guilbeault, bonjour.
Bonjour, Patrick.
D'abord, écoutez, c'est bel et bien un vote du cabinet qui a autorisé le projet?
Non, pas du tout. C'est une décision de moi, le ministre de l'Environnement. Donc, j'ai reçu une recommandation favorable de l'Agence d'évaluation environnementale. Et là, c'était à moi de décider si j'acceptais ou non. Si j'avais refusé cette recommandation-là de l'Agence, là, à ce moment-là, c'est le cabinet qui en aurait été saisi. Mais l'Agence a étudié le projet pendant 4 ans et m'a fait une recommandation favorable juste avant les fêtes.
OK, mais de façon rationnelle, là, si vous aviez refusé le projet, M. Guilbeault, le cabinet aurait autorisé le projet. Est-ce que je pense que le cabinet était en faveur de ça, là?
Ben, c'est une bonne question. Le cabinet en aurait débattu, puis il y a une décision qui aurait été rendue, mais je ne veux pas présupposer de ce qu'aurait été cette décision-là.
OK. Joël-Denis Bellavance, dans la presse ce matin, disait que le fédéral a pensé refuser le projet et donner 3 milliards à Terre-Neuve en guise de compensation. Dans un monde idéal, est-ce que vous auriez préféré ça?
C'est une décision qui est très difficile de façon générale, très difficile pour moi, évidemment. Il faut comprendre que même le GIEC qui déposait son rapport plus tôt cette semaine prévoit qu'en 2050, on va passer d'une consommation de pétrole, aujourd'hui on est autour de 100 millions, à quelque part autour de 35 millions de barils par jour. Donc beaucoup moins, deux tiers de moins à peu près. Mais on va quand même avoir besoin, selon le GIEC et selon l'Agence internationale de l'énergie, de pétrole en 2035. Ce qu'on doit faire, c'est se diriger vers les sources de production de pétrole qui émettent le moins de gaz à effet de serre et compenser ou séquestrer les émissions qui restent. Or, Baie du Nord, c'est 10 fois moins de gaz à effet de serre qu'un projet de sable bitumineux. Pour ceux que ça intéresse, là, hier, j'ai dit non à un projet de sable bitumineux en Alberta qui aurait émis plus que 10 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que Baie du Nord.
Mais une fois que le pétrole va être brûlé, ça consomme, ça diffuse autant ou presque de gaz à effet de serre que du sable bitumineux, là, des pétroles bitumineux.
Ben, écoutez, si vous me dites qu'il n'y a pas de différence entre émettre 250 000 tonnes de CO2 par année pendant plus de 35 ans puis émettre plus de 3 millions de tonnes de CO2 à chaque année pendant 35 ans, moi, je vous dirais que ça fait une très, très grosse différence.
OK, mais ce que les experts du GIEC disent, M. Guilbeault, puis c'est pas à vous que je vais apprendre ça, c'est il faut arrêter de sortir du pétrole de la terre.
Ce que le GIEC fait, c'est des recommandations à l'échelle internationale. Le GIEC ne fait pas de recommandations par pays. Nous avons une particularité au Canada, qui est la Constitution, qui fait en sorte que les provinces ont juridiction sur la production de ressources naturelles. Là où moi, je peux agir en tant que ministre de l'Environnement, c'est sur la pollution. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec un prix sur la pollution, avec une réduction de 75 % des émissions de méthane dans le secteur du pétrole et du gaz d'ici 2030, ce qui est l'objectif, Patrick, le plus ambitieux au monde, et encore plus pour un pays producteur de pétrole comme nous. Et on va mettre un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur également. Il n'y a aucun autre pays au monde qui a proposé de faire ça jusqu'à maintenant. Alors, ce projet-là devra cadrer avec ce plafond-là que nous allons mettre en place au cours des prochains mois.
Quand on s'est parlé la semaine passée, quand vous avez présenté votre plan de réduction des gaz à effet de serre là, pour le Canada, vous m'aviez dit, écoutez, il y a des militants, là, vous m'aviez donné le nom de groupe et de gens qui disaient « Ah, c'est un bon plan, c'est un bon plan. Vous étiez, me le disiez. Là, je regardais ce que Patrick Bonin de Greenpeace Québec disait. Il n'est pas pantoute avec vous sur Baie-du-Nord, là.
Ah ben, je comprends, c'est un symbole important pour les écologistes, puis je peux très bien comprendre ça, mais quand je vous ai présenté le plan la semaine dernière, je disais que le plan reposait sur plusieurs sources d'informations, notamment celle de la Régie de l'énergie du Canada, qui est un régulateur indépendant et qui prévoit une augmentation de la production de 1 million de barils par jour d'ici 2030. Alors nous, on a intégré ça dans le plan qu'on a présenté la semaine dernière, et les écologistes, comme M. Bonin, ont pu voir que ce plan-là prévoit, selon la Régie d'énergie, donc c'est pas le gouvernement fédéral qui décide ça, mais la Régie d'énergie estime que la production va augmenter. On a tenu compte de ça dans notre plan et on a réussi à démontrer quand même, à leur satisfaction, celle de Greenpeace, celle d'Équiterre, celle de l'ancien chef du Parti vert de la Colombie-Britannique et membre du GIEC, que notre plan était sérieux et qu'il démontrait de façon convaincante comment on va atteindre nos objectifs.
Vous avez milité longtemps et vous avez des amis, vous avez des compagnons de route, là, vous les avez pas perdus, ces gens-là, maintenant que vous êtes ministre. Cette décision-là, qu'est-ce que ça a provoqué chez vos compagnons de route, chez vos amis qui vous ont connu comme militants écologistes? Quand ils vous écrivent, là, ils vous disent quoi?
J'ai reçu plusieurs messages personnels d'ex-collègues là, du milieu tant au Québec qu'au Canada anglais, qui me disait on comprend que ça doit être un moment difficile pour toi. On t'aime beaucoup malgré tout. Il y a une amie de Colombie-Britannique qui m'a dit tu restes mon ministre de l'Environnement préféré, mais je t'en maudis après la décision de Baie-du-Nord. En gros, c'est un peu ce que les gens me disaient.
Parce que moi, il y en a qui m'ont écrit à moi aussi, pour qui vous connaissent, là, qui étaient. Je vais décrire ça comme ça. Ils ont le cœur brisé.
Ben, c'est pas une décision facile. Puis moi, j'ai pas de voiture. J'en ai jamais eu. Je n'en posséderai probablement jamais. Mais le train que je prends pour venir à Ottawa, j'ai même ma voiture de fonction comme ministre, c'est une voiture 100% électrique. Alors, je fais vraiment tout ce que je peux. Mais la réalité.
Hey, Monsieur Guilbeault, je m'excuse, là. Je veux pas ajouter à vos tourments, là, mais vous le savez comme moi que les initiatives individuelles, là, dans le grand ordre des choses, là. Vous ne commencerez pas à me dire que votre char est électrique, votre char de fonction, quand vous avez le pouvoir de dire non à Baie-du-Nord.
Même si je disais non à Baie-du-Nord, là, Patrick, le Québec consomme à tous les jours deux fois plus de pétrole que ce que Baie-du-Nord va produire un peu après 2030, à tous les jours. Alors même si on disait non à Baie-du-Nord, le Québec va continuer de consommer pendant un bon bout de temps 360 000 barils de pétrole par jour. Donc, si on prenait toute la production de Baie-du-Nord, là, ben, ça fournit du pétrole au Québec pendant, dépendamment là, de la quantité qu'on va trouver, là, mais entre 3 et 7 ans. Alors, ça paraît, quand on le dit, est-ce que dans 7 ans, vous pensez qu'on va avoir fini d'utiliser des voitures à l'essence? Est-ce qu'on va avoir fini d'utiliser des voitures, des avions qui utilisent du carburant ou des trains qui fonctionnent au diesel? J'aimerais vous dire que oui. Puis on est en train de prendre des gestes ambitieux pour que en 2035, toutes les voitures vendues au Canada soient des voitures sans émissions. Mais c'est pas, ça se fera pas dans les sept prochaines années, Patrick.
Écoutez, je dois vous dire, Steven, là, puis je vous appelle Steven parce que je vous ai connu avant la politique. Je faisais des chroniques sur vous puis sur votre combat pour le climat il y a 20 ans. Je comprends tout ce que vous me dites, là, OK? Puis je pense que ce qui frappe beaucoup de gens depuis 24 heures, depuis que Baie-du-Nord a été autorisé, c'est on comprend la réelle politique canadienne. On a du pétrole, puis il y a des pressions pour en profiter, puis Terre-Neuve en avait besoin pour en relancer. On comprend ça. Moi, j'avais juste jamais entrevu un scénario où Steven Guilbeault serait un jour envoyé au BAT pour justifier ça.
C'est le rôle du ministre de l'Environnement de prendre ce genre de décision-là quand il y a une évaluation environnementale. Et lorsqu'on a réformé l'évaluation environnementale il y a quelques années pour dépolitiser le système, alors ce projet-là a fait l'objet d'une étude pendant 4 ans, des experts, des spécialistes, 43 communautés autochtones qui ont été consultées. Et après 4 ans d'évaluation, ces gens-là me font un rapport puis ils me disent, écoutez, on a évalué tout ça, on met 137 conditions, dont l'une que le projet soit carboneutre en 2050, et en faisant tout ça, on estime que le projet n'aura pas trop d'impact environnementaux. Alors, si je serais allé à l'encontre de tous ces scientifiques-là indépendants, de tous ces experts-là qui ont fait ce travail-là, sur une base politique. Et quand Greenpeace critique le travail de l'agence, Greenpeace n'a pas participé aux audiences pendant 4 ans. Alors, c'est facile de dire, ben moi, je rejette tout ça du revers de la main. Mais il y a une procédure quand même rigoureuse qui a été suivie pour ça. Et parfois, l'agence fait des recommandations au ministre, pas longtemps avant les fêtes, pour le projet Laurentia Québec, le projet d'agrandissement du port de Québec. Dans ce cas-là, l'agence estimait que le promoteur n'avait pas bien fait ses travaux et a recommandé qu'on n'aille pas de l'avant avec le projet. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, on peut pas tout politiser ces dossiers-là. Puis je comprends que c'est un symbole pour beaucoup de gens. Mais encore une fois, si Baie-du-Nord ne se réalisait pas, ben on va quand même avoir besoin de pétrole au Canada puis dans tous les pays de la planète, même en 2050, même dans un monde où on va avoir réduit notre consommation d'à peu près d'environ les 2/3.
Vendredi, vous êtes venu à mon micro, puis je vous ai posé la question. Est-ce que Baie-du-Nord, ça va aller de l'avant? Vous m'avez dit, c'est pas décidé. Le moment où vous avez décidé, là, parce que vous dites que c'est votre décision, racontez-moi ce moment-là.
Ça s'est fait au début de la semaine. On a annoncé une série de choses.
Ce que je veux savoir, là, c'est comment vous vous êtes senti. Vous êtes dans votre bureau, là, sur la colline, puis là, il faut signer pour dire oui, moi, j'autorise qu'on sorte de l'Atlantique, là, des millions de barils de pétrole. Comment vous êtes senti à ce moment-là?
Je l'ai dit en début d'entrevue, c'est une décision qui est difficile. Professionnellement, certainement la décision la plus difficile que j'ai jamais prise de ma vie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je ne suis pas venu en politique pour approuver des projets pétroliers, mais je ne suis plus militant pour une organisation écologiste. Je suis le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques pour 37 millions de Canadiens et Canadiennes. Et je dois prendre des décisions qui sont dans l'intérêt public, pas juste dans l'intérêt... Je comprends les groupes écologistes qui sont là pour représenter leurs membres, ils représentent les intérêts de leurs membres. Moi, je dois représenter l'intérêt de l'ensemble de la population du Canada. Et c'est en faisant l'ensemble de l'évaluation de tous ces éléments-là que j'ai pris cette décision-là.
Maintenant que vous êtes dans le siège du ministre de l'Environnement, là, c'est-tu plus dur que vous imaginiez quand vous étiez de l'autre côté de la clôture?
Honnêtement, je m'attendais pas. J'ai 4 enfants, vous en avez quelques-uns, je pense, vous aussi. Moi, je gagne jamais toutes mes batailles à la maison. Alors, je m'attendais pas, en devenant ministre de l'Environnement dans un pays du G7, que j'allais gagner toutes mes batailles en environnement non plus, pas plus que je peux gagner toutes celles qu'il y a à la maison. Alors, c'est sûr que je savais qu'il y aurait des moments plus difficiles que d'autres. La semaine passée, on a déposé un plan, ça a bien été, ça a été bien reçu. J'ai mené plusieurs batailles pour arriver à ce que ce plan-là soit aussi rigoureux qu'il l'a été. Dans le cas de Baie-du-Nord, ben c'est un dossier où c'est pas nécessairement ce que moi j'aurais fait si j'étais tout seul, mais je suis pas tout seul et je suis pas représentant des intérêts de Stephen Guilbeault. Je suis représentant des intérêts de toute une population.
OK, en terminant, est-ce que ça faisait pas assez par l'esprit de démissionner plutôt que d'autoriser Baie-du-Nord?
Non, écoutez, la semaine dernière, j'ai présenté un plan qui va permettre de réduire de plus de 200 millions de tonnes par année les émissions de gaz à effet de serre au Canada. Baie-du-Nord, c'est 250 000 tonnes. Alors, à choisir entre les deux, je referais la même décision, clairement.
Monsieur Guilbeault, merci. Je souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup. Au revoir.
Salut, à la prochaine. Stephen Guilbeault, ministre fédéral de l'Environnement. Écoutez, je vois les messages qui arrivent dans la messagerie. Stephen Guilbeault passe pas une bonne semaine cette semaine. Il y a beaucoup de ministres de l'Environnement qui auraient tenu le même discours, puis on se dirait, ben oui, c'est la réelle politique canadienne. Ce qui détonne, c'est que ce soit Stephen Guilbeault, avec tout ce qui vient avec de passé militant, la banderole déroulée sur la tour du CN pour accuser des dirigeants de tuer le climat, on s'en rappelle, ça avait frappé l'imaginaire, ça avait propulsé la carrière de Stephen Guilbeault. Donc, maintenant que le pot est lancé, je dois dire, voici les fleurs. Il y a beaucoup de ministres, quand ils sont comme ça, sur le grill, ils ne viennent pas en entrevue. Stephen Guilbeault, généralement, prend le téléphone puis il donne des entrevues.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Clément Gignac est économiste et sénateur indépendant. Salut Clément.
Bonjour Patrick.
Donc, ce budget-là, qu'est-ce qui te frappe là-dedans d'abord et avant tout?
Il faut dire que j'ai pas eu le temps de passer à travers toutes les 300 pages. Là, pour les j'ai participé au huis clos, mais j'ai pas eu le temps de tout regarder ça. Mais ce qui me frappe, c'est que au niveau, vous avez parlé juste un peu avant de la dette puis du déficit. C'est vrai que juste avant la pandémie, le gouvernement était parmi les moins endettés du G7. On parlait d'un ratio d'endettement de 30%. Mmh. Nous, il est rendu à 46%. Mais malgré tout, le ratio d'endettement va se mettre à diminuer. En fait, faut penser pourquoi qu'il va diminuer, puis pourquoi que le déficit va diminuer dans les prochaines années. C'est qu'il y a tellement d'inflation dans l'économie que ça fait que les gouvernements ont beaucoup de recettes qui rentrent. Donc, il y a beaucoup de recettes fiscales qui rentrent. C'est ce qui fait qu'il a pu se permettre d'avoir des initiatives comme un régime de soins dentaires qu'ils vont implanter, mettre des initiatives pour le logement, puis que le déficit va continuer à diminuer pareil. Donc, ça m'a frappé. Toute la marge de manœuvre que l'inflation donne au gouvernement, ça permet au gouvernement à ce moment-là de poursuivre une réduction de déficit malgré le fait là qu'il a répondu présent aux demandes du NPD de mettre son régime de soins dentaires qui va coûter pas loin de 2 milliards par année quand ça va être en plein régime là, en 2025.
Mais Clément, si je comprends bien, l'inflation, je veux dire, c'est comme avoir un boulet à son pied quand on essaie de nager pour les individus, les familles. Mais pour le gouvernement, ça annonce des entrées fiscales supplémentaires.
C'est ça. Puis contrairement au gouvernement du Québec où le ministre Girard, lui, il a décidé de donner de l'argent. Puis il a peut-être été critiqué parce que c'était juste que des gens qui pouvaient gagner jusqu'à 100 000 piastres avaient droit au rabais. Là. Il n'y a rien là-dessus dans le budget du fédéral. Donc, pour contrer l'inflation, les familles à faible ou modeste revenu, il n'y a pas de chèque qui va être envoyé aux Canadiens. Il faut dire qu'il n'y a pas une élection qui s'en vient de façon imminente non plus. Là. Donc, ça, c'est absent du budget, qui fait en sorte que le gouvernement, juste pour l'année qu'on en cours, là, Patrick, c'est 15 milliards de plus que ce qu'il avait prévu le 6 mois, là, l'automne dernier. Donc, l'argent rentre à plein parce qu'il y a de l'inflation, mais contrairement à Québec, on n'envoie pas des chèques aux ménages. On y va pour des nouvelles initiatives au niveau du logement, le régime de compte, le compte libre d'impôt pour favoriser l'accès à la première propriété. C'est quand même une belle initiative. Régime de soins dentaires et aussi différents autres programmes. Mais surtout, ce qui m'a frappé, puis pour ça, pour moi, c'est une réaction positive. Oui, on est encore en déficit, mais au moins le déficit n'augmente pas. Il va diminuer, en fait, plus rapidement que ce qui avait été mentionné il y a quelques mois.
Mais 56 milliards de nouvelles dépenses, de nouveaux programmes en 6 ans, dans un contexte où on va avoir des déficits récurrents pendant encore quelques années, est-ce que c'est bien, bien sage?
Bien, l'idée souvent, oui, c'est des gros chiffres quand tu accumules sur 6 ans, hein, parce que dans le fond, mais si tu regardes sur une base annuelle, là, je l'ai mis, pour la présente année financière, c'est 9,4 milliards les nouvelles dépenses. Donc, si tu fais un total par année, tu finis que tu as un gros chiffre, mais c'est pas aussi pire que j'aurais pensé. Parlons du service de la dette, parce que dans le fond, le service de la dette, si on recule dans le temps de Paul Martin, il y a 30 ans, puis qu'on était sur le bord d'une crise financière, c'était à peu près 40 sous. Pour chaque dollar de recette du gouvernement fédéral, c'était 40 sous. Et actuellement, on parle de 7 sous. Puis dans 4-5 ans d'ici, avec le déficit qui augmente, pas qui augmente, mais qui diminue, mais la dette qui continue à augmenter pareil, la réalité, c'est que le ratio de service de la dette va être à moins de 10 sous. Fait que quand tu as moins de 10 sous qui doit consacrer au service de la dette, tu as encore de la marge de manœuvre. Puis on demeure encore le pays qui va être le moins endetté au sein du G7. Je ne dis pas que tout est parfait. Peut-être qu'on aurait pu aller plus de restrictions, mais je suis soulagé parce que j'avais peur que ce serait bien pire que ça. Malheureusement, par contre, pour les provinces, Il n'y a pas une scène là-dedans. Puis pour les gens qui nous écoutent, ils n'auront pas de chef pour contrer l'inflation et là, ils sont laissés eux-mêmes.
Mais Clément, tu as été ministre du gouvernement québécois, tu as été un ministre libéral. Tu as vu les besoins qui sont immenses dans les provinces. Puis les provinces, là, sont aux premières lignes des besoins des citoyens. Écoles, hôpitaux, soins à domicile, etc., etc. C'est un peu indécent qu'Ottawa n'envoie pas plus d'argent aux provinces.
Oui, c'est décevant parce que à quelque part, surtout dans les soins de santé, là, c'est comme significatif. Et ça, c'est décevant. C'est une conversation qu'ils disent qu'ils vont avoir un peu plus tard. Par contre, il faut se le dire, dans les deux dernières années durant la pandémie, c'est environ 8 cents pour chaque, ou 80%, je devrais dire, de toute l'aide gouvernementale que les gens ont reçue, puis les entreprises ont reçue, ça venait d'Ottawa. Pourquoi? Parce que c'est Ottawa qui avait de la marge de manœuvre, mais c'est Ottawa qui a fourni à la hauteur de 80%. On parle quand même, Patrick, 350 milliards de dollars là, sur 2 ans qui étaient versés dans l'économie. Évidemment, c'était aux dépens du déficit, mais ils en ont fait comme beaucoup. Fait que là, pour l'instant, ils ont décidé qu'au lieu que le déficit se mette à augmenter, puis répondre aux besoins des provinces, ils veulent mettre de l'ordre dans leurs finances publiques à Ottawa. Puis je pense que la discussion pour envoyer plus d'argent aux provinces, ça va être un peu plus tard, sans doute quand on va se rapprocher des élections fédérales ou qu'on sera peut-être même rendu à l'équilibre budgétaire.
OK, Clément, il y a 10 milliards pour faciliter l'accès à la propriété là, de toutes sortes de façons. Ouais. Mon ami Pierre-Yves McSween, hier, s'insurgeait contre ça. Lui, sa thèse à propos de cette mesure-là, c'est que c'est pas un problème d'argent qu'il y a dans le marché, c'est un problème d'offre d'unité. Est-ce qu'en donnant plus d'argent aux gens, on va pas juste créer une pression à la hausse sur les ventes puis l'accès à la propriété?
Mais il agit sur les deux volets, y compris sur l'offre, parce que au niveau comme la CHL, qui est leur société d'État, comme c'est, va avoir un fonds de 2 milliards pour pouvoir construire plus de logements. On vit 100 000 logements supplémentaires. On va avoir aussi plus d'argent pour les coopératives d'habitation. Donc, on agit des deux côtés. On agit du côté de l'offre et aussi, on veut freiner la spéculation immobilière parce que les étrangers pourront pas acheter une maison au Canada dans les 2 prochaines années. Puis ceux qui achètent là, des maisons puis ils revendent dans la même année, là, ceux qui achètent des condos puis ils flippent, comme ils appellent, bien ça va être considéré dorénavant comme un revenu, comme si c'était un revenu comme une paye, si tu veux. Donc, il n'y aura plus de gain capital là-dedans. Donc, ils s'attaquent à la spéculation, ils augmentent l'offre, mais évidemment, on aurait pu espérer qu'ils fassent davantage. Moi, ce que j'aurais pu aimer voir, c'est peut-être aussi beaucoup plus au niveau des investissements des entreprises et aussi au niveau de la formation de main-d'œuvre. La réforme de l'assurance-emploi qui est censée, qui nous parle, ils vont aller en consultation encore. Fait que dans le fond, là, on n'a pas encore toutes les informations de ce côté-là. On reste un peu sur notre appétit.
Merci beaucoup, Clément. Bonne soirée.
Au plaisir.
Salut, à la prochaine. C'était Clément Gignac, sénateur indépendant et aussi économiste. On va parler d'un aspect un peu méconnu de la crise du logement. Vous le savez, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à se loger. Que ce soit, on en parlait avec hier avec le journaliste Christopher Curtis, de la difficulté de se trouver des appartements à bon prix, bien situés, qui soient potables aussi. Et il y a aussi toute la question de se trouver un condo, une maison, surtout pour les premiers acheteurs. Quand on n'est pas déjà dans le marché, c'est extrêmement difficile. Et il y a aussi les personnes âgées qui font face également à des défis en ces jours où l'immobilier, ça devient une sorte de course au gisement doré, au gisement d'or. Si vous êtes assis sur un parc immobilier, ben vous êtes assis sur une sorte de mine d'or. Il y a des gens qui veulent faire fructifier leurs actifs, on va dire ça comme ça. On va parler de la résidence pour aînés Mont-Carmel. C'est à Montréal et une résidence où il y a des gens âgés qui ont reçu des avis d'éviction. Pourquoi? Ben parce que le propriétaire veut transformer son actif immobilier. On va parler de tout ça avec Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Madame Massé, bonjour.
Oui, bonjour, M. Lagacé.
Donc, résumez aux gens, là, quelle est la lutte des gens de Mont-Carmel présentement? Là? C'est sur le boulevard René-Lévesque.
Oui, bien écoutez, vous avez dit la pièce maîtresse, c'est-à-dire qu'au mois de début février, 200 aînés de la résidence Mont-Carmel ont reçu un avis d'éviction leur disant qu'à partir du 31 juillet, eux, ils n'auraient plus de service, on parle de services, là, c'est infirmière sur place, la sécurité, le bouton panique, bon, ce genre de services-là. Deux, qu'ils pourraient rester, mais qu'ils auraient une augmentation du prix du loyer de 3 % même s'ils perdent leur service, ils ont une augmentation de loyer de 3 % Et trois, ben sinon, ben ils quittent. Alors voilà, et sachez d'entrée de jeu que la moyenne d'âge à Mont-Carmel des 220-ish résidents, on parle de 75 ans et plus.
Donc, c'est pas des gens pour qui c'est évident de se revirer et de se trouver un autre logement. Là. C'est pas évident pour des gens qui sont bien portants dans le marché actuel, mais pour des personnes de 75 ans et plus, là, ça peut être assez difficile.
Exactement. Et c'est d'ailleurs pourquoi très rapidement, dès le jour 1 où les gens ont reçu leur avis d'éviction, il y a un petit comité qui s'est mis sur pied. Bon, je les appelle mes guerrières de la paix. Ces femmes-là, avec un homme ou deux, ont décidé qu'ils ne se laisseraient pas marcher sur les pieds. Ils ont déposé dernièrement, premièrement, ils contestent leur avis d'éviction devant le tribunal administratif du logement parce que, pour toutes sortes de raisons qui sont inscrites à leur requête. Et hier ou avant-hier, là, j'en perds un peu la suite des choses, ils ont déposé en Cour supérieure aussi une requête pour que ils puissent maintenir leur service dans cette affaire.
Mais est-ce que, il y a toutes sortes de recours, mais dans votre compréhension des choses, Mme Massé, le promoteur, ce qu'il fait, est-ce que c'est légal?
C'est ça, c'est là, Patrick, que c'est complètement fou. C'est tout à fait légal, mais complètement immoral. J'avais un échange en chambre, je sais pas, la quatrième depuis quelques semaines, avec la ministre responsable des aînés, où dans le fond, elle avait le pouvoir, elle l'a toujours d'ailleurs, de changer les règles du jeu qui fait que cette situation-là qui est vécue à Mont-Carmel, mais beaucoup plus largement au Québec, là, je reçois plein de témoignages de gens à travers le Québec qui vivent, dont leurs parents, leurs frères, leurs sœurs vivent la même situation dans leur RPA, leur résidence privée pour aînés, et c'est légal. Mais ça n'a pas de bon sens qu'on accepte ça dans notre société. Alors, c'est pour ça que je suis parti à côté de ces femmes-là en guerre contre cette loi-là qui n'a pas de bon sens.
Il y a un auditeur qui m'écrit, Mme Massé, qui me dit on ne peut pas évincer des gens de 70 ans et plus. Et il me semble avoir vu ça. Là. Si une personne a un âge X, on ne peut pas l'expulser. Sauf que là, dans le cas qui nous occupe, les personnes âgées ne sont pas expulsées. On leur coupe tout simplement tous les services sur lesquels elles comptent.
Oui, effectivement, mais c'est bel et bien un avis d'éviction qu'elles ont reçu. Mais pour faire écho, on l'appelle entre nous la loi Françoise David, parce que c'est mon ex-collègue Françoise David qui avait fait adopter cette loi-là avant de quitter le Parlement. Et oui, c'est pour les personnes de 70 ans et plus, mais ils doivent répondre à d'autres conditions, c'est-à-dire d'être en place depuis plus de 10 ans, avoir un revenu moins de 32 000, je crois, de mémoire. Fait qu'il y a un certain nombre de conditions. Ceci étant dit, dans le cas des RPA, si le propriétaire décide de changer de vocation, ben il peut le faire, il n'y a pas de problème. Et c'est d'ailleurs pourquoi il faut revisiter complètement ce règlement-là concernant les résidences privées pour aînés, pour faire en sorte de donner l'assurance. Parce que moi, le témoignage que j'ai, Patrick, le plus important, c'est les gens qui viennent me dire, qui m'ont dit et qui me disent encore, moi, Manon, j'avais décidé de choisir une résidence. J'ai vécu à loyer, mettons, toute ma vie, où j'ai eu ma maison. Et je me suis choisi une résidence avec des services parce que je veux plus redéménager dans ma vie. Je veux finir mes jours tranquillement en me sentant en sécurité et qui plus est dans la situation de Mont-Carmel, en plein centre-ville de Montréal. Donc, ils peuvent tout faire à pied. Fait que c'est super, ça, pour des aînés. Malheureusement, il en est autrement depuis que le propriétaire a décidé de changer le cours des choses.
Je sais que vous brassez beaucoup pour ce dossier-là. C'est dans votre circonscription, si je ne me trompe pas. Là. La réponse du gouvernement à tout ce qui touche le logement, les problèmes de logement, que ce soit à Montréal ou ailleurs, c'est de dire qu'il n'y a pas de crise du logement, ce qui est une façon de voir les choses. Là. Mais la réponse à ce qui se passe à Mont-Carmel, ça a été quoi du côté gouvernemental?
Ben, vous avez raison. Le premier problème, c'est que ce gouvernement-là, que ce soit la responsable des aînés ou de l'habitation, ou le premier ministre, ne reconnaissent pas qu'on est en crise du logement. et ils ne comprennent pas ce que ça veut dire être en crise du logement. Ce qui arrive spécifiquement à Mont-Carmel, quand j'échange avec la ministre ou les ministres, parce que j'ai parlé aussi avec la ministre de l'Habitation, ce qu'elle me dit, c'est on va faire quelque chose. On s'en occupe. Non, mais attendez, là, mon collègue Sol Zanetti a déposé des amendements dans un projet de loi qu'on était en train d'adopter il y a à peine quelques heures, et la ministre, pour protéger les aînés en RPA, vous comprenez bien, et la ministre a décidé de rejeter ces amendements-là. Alors, en parole, ils disent qu'ils s'occupent des aînés, mais ceci étant dit, en pratique, ça ne donne pas ça, tellement que les aînés de Mont-Carmel sont obligés de faire un beau fond de nid pour être capables de financer les avocats pour les défendre. Moi, je trouve que ce n'est pas le type de société dans lequel je veux vivre, moi, en tout cas.
OK, je vais élargir un petit peu, on va s'éloigner de Mont-Carmel, mais on va rester sur le logement. Comme je disais, ce n'est pas juste un problème de Montréal, c'est un problème qui touche à peu près toutes les régions du Québec. Là, la difficulté de se loger à prix descend dans des conditions qui sont potables. D'un autre côté, quand on parle des relations propriétaires-locataires, Mme Massé, il y a beaucoup de propriétaires qui disent, écoutez, au prix que sont les loyers quand j'achète un immeuble, je ne peux pas rentabiliser l'investissement. Qu'est-ce qu'on répond à ça?
Ben, moi, je sais que le marché, OK, on l'a laissé aller. On n'a pas les gouvernements successifs, libéraux et maintenant les caquistes, n'interviennent pas pour faire en sorte de régulariser les choses. Nous, on a proposé d'agir avec un contrôle des loyers qui permettrait, bien sûr, aux propriétaires de pouvoir récupérer une partie de leur investissement qu'ils font et donc, dans le long terme, de pouvoir récupérer leur investissement, mais surtout qui ferait en sorte que le poids de défendre notre point de vue comme locataire, qui actuellement existe, mais il faut porter plainte au tribunal administratif, ça ne fait pas des bonnes relations propriétaires-locataires. Alors nous, à Québec solidaire, on disait, parfait, inversons ça. Si toutefois un propriétaire voulait, pour X, Y raison, augmenter son logement plus que le taux qui est prévu, il pourrait le faire, sauf que c'est lui qui devrait faire la preuve au tribunal administratif qu'il peut le faire et non pas le locataire qui doit poursuivre, entre guillemets, son propriétaire pour être capable de dire, ben voilà, j'ai une hausse abusée sur les bras. Fait que moi, je pense qu'il y a des moyens, puis l'autre grand moyen, puis là, que les libéraux, que les péquistes et que les caquistes se tapent sur les doigts, M. Lagacé, c'est qu'on a abandonné le logement social, le logement communautaire, depuis trop longtemps. On a laissé l'habitation au sens large aux mains du marché privé, qui fait qu'aujourd'hui, ben, ils sont rois et maîtres, puis ils nous mettent dans cette situation-là.
Mais merci beaucoup, Mme Massé. On se reparle. On aura l'occasion de reparler de logement. Là. Je sais que c'est une préoccupation pour beaucoup, beaucoup de gens. Puis même ceux qui n'ont pas cette préoccupation-là, ben, ils ont des enfants qui l'ont, donc ça devient leur préoccupation aussi. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, au revoir.
OK, c'était Manon Massé. Et ben, c'est ça, on a mis en onde Christopher Curtis. On a mis j'ai parlé ici de Chantal Guy, ma collègue chroniqueuse à la presse, qui est à loyer à Montréal. Et là, l'immeuble vient d'être vendu. Je pense que c'est vendu ou c'est sur le marché à 1 million de dollars. Et Chantal fait le calcul. Elle dit, une fois que le building va être vendu, c'est sûr qu'ils vont trouver un prétexte pour nous mettre dehors parce que au prix qu'est mon loyer, tu peux pas me garder dedans. Ça n'a aucun sens économiquement. Fait que, tu sais, là-dedans, je veux dire, moi, je comprends plusieurs côtés. OK? Il y a des choses immorales que je ne comprends pas. Mais quand tu décides d'acheter un immeuble, là, tu arrives avec les loyers, tu regardes ça. Moi, je connais des gens qui ne veulent pas acheter des immeubles parce qu'ils vont devoir, disons, mettons ça comme ça, réviser leurs standards moraux. Ils vont devoir inventer une grand-mère qui va venir vivre au deuxième. Ils vont devoir inventer un père qui va venir vivre au troisième, etc. pour, pendant un an, avoir quelqu'un en place, puis après ça, whoop, monter les loyers. Je comprends aussi les gens qui disent, écoutez, on veut rester dans notre quartier, on est enraciné. Puis il y a des gens qui m'écrivent, chaque fois que je parle de logement à Montréal ou ailleurs, des gens qui me disent, ben oui, mais écoute, il y avait juste à acheter avant, puis c'est le marché, puis etc. OK, si on y va, d'une part, tu veux que tes quartiers soient représentatifs de la société, sinon ça va être homogène au bout. L'autre affaire, les gens qui ont des jobs qui placent les fruits dans les épiceries, les gens qui sont commis de dépanneurs, qui tiennent la caisse, etc. Je veux dire, s'ils sont obligés d'aller rester à Chambly, ces gens-là, ben, qui va faire plein de jobs dans nos quartiers parce qu'ils sont évincés des quartiers? C'est une question qui est plus complexe que juste il aurait dû acheter il y a 10, 15 et 20 ans.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Stéphane Sioan, vous l'avez entendu souvent à notre antenne. Il est journaliste à Kiev. On le rejoint là-bas. Il est presque minuit. Salut Stéphane.
Bonjour.
Comment te portes-tu?
Eh bien, ça va. Septième semaine de guerre. On essaie de continuer. Mais bon, voilà, c'est pas forcément facile. En tout cas, voilà, l'Ukraine est toujours en guerre et cette guerre continue, ouais.
OK. Travailler à Kiev comme journaliste aujourd'hui, c'est avoir des rendez-vous d'interview annulés. La personne qui s'excuse au téléphone de ne pouvoir venir car on vient de trouver le corps d'un membre de sa famille dans la forêt dans la région de Kiev. C'était un de tes tweets, Stéphane, aujourd'hui. On continue à faire des entrevues, on continue à faire des reportages, mais c'est de plus en plus difficile, j'imagine.
Oui, en effet, c'est quelque chose qui m'est arrivé, que j'ai souhaité mettre en valeur sur Twitter, parce que désormais, en Ukraine, on est face à une nouvelle réalité. La guerre se poursuit depuis cette semaine. Il y a toutes ces horreurs dont on a entendu parler ces derniers temps à Boutcha, bien entendu, avec des dizaines, voire même des centaines de personnes qui ont disparu, des personnes qui ont été tuées. Et c'est quand même très surprenant lorsque dans son travail quotidien, dans une ville où on habite depuis 8 ans, eh ben on essaie d'avoir une interview avec quelqu'un et cette personne répond au téléphone: désolé, je vais pas pouvoir venir parce qu'en fait je viens d'apprendre que une personne de ma famille a été tuée. On a retrouvé le corps dans la forêt. Alors ça peut paraître anecdotique, mais c'est en train de montrer où on est en train de basculer dans ce pays, où après le retrait des forces russes du nord de l'Ukraine, ben on commence à retrouver des cadavres, des corps de personnes, et c'est vraiment toute la société qui est touchée par cette catastrophe.
En reportage hier à Borodyanka, Stéphane Sioan, là, t'as trouvé une ville qui a été bombardée comme ça. Est-ce que les Ukrainiens s'habituent à cette horreur-là, ou est-ce qu'ils deviennent anesthésiés dans le fond?
Non, c'est quelque chose qui en effet très difficile. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la guerre a commencé, il y avait trois fronts principaux. Il y avait le front du nord, le front de l'est et le front du sud. Le front du nord, c'était celui de Kiev et des zones septentrionales. Et il était clair que dès le début de la guerre, les forces russes pensaient qu'elles pourraient lancer l'assaut sur la capitale, Kiev, prendre le contrôle de la capitale. C'est une bataille qui a duré plusieurs semaines. Et il y a quelques jours, les forces russes se sont retirés de la région de Kiev. Alors les Ukrainiens interprètent cela comme une victoire militaire. Ils ont mis à mal l'armée russe, mais cette armée russe contrôlait plusieurs zones, et donc les forces russes sont en train de se retirer. La police, l'armée ukrainienne est en train de reprendre le contrôle, de découvrir ce qui s'est passé. On a des localités, des villes et des villages qui ont été sous occupation russe pendant plusieurs semaines, et on découvre véritablement une catastrophe. On a beaucoup parlé de la ville de Boutcha, où 300 corps ont été trouvés, et il y a d'autres localités, et notamment cette petite ville de Borodyanka, où j'ai pu me rendre hier. C'est une ville qui faisait à peu près 13 000 habitants avant la guerre. Elle avait une position qui était stratégique, hein, par rapport à la ville de Kiev. Elle était proche de la Biélorussie, d'où la Fédération de Russie a lancé l'attaque sur Kiev, et elle a été bombardée par des avions. Alors, on ne voit pas la même situation qu'à Boutcha. À Boutcha, c'est quelque chose de très particulier, où pendant plusieurs semaines, les forces d'occupation russes ont abattu des gens dans la rue, ont fait sortir des gens de leur maison et les ont assassinés. Il n'y a pas d'autre mot. À Borodyanka, c'est une situation différente. C'était une ville stratégique qui a été bombardée par des avions. Je n'ai pas vu de corps dans la rue, mais par contre, j'ai vu à peu près la moitié des bâtiments de cette ville qui étaient défoncés. Et les autorités ukrainiennes pensent qu'il y a à peu près 200 à 300 personnes qui sont sous les décombres. Donc, les services de secours sont en train de retirer les débris pierre par pierre. Et le bilan sera établi sans doute dans 2 à 3 semaines. Mais on voit qu'il y a une sorte de litanie de ces villes écrasées. Et la situation est vraiment catastrophique dans les zones du nord de l'Ukraine, où plus la marée russe se retire, plus on découvre des phénomènes qui relèvent du crime de guerre. Mais pour les Ukrainiens, ça va encore plus loin. On pourrait éventuellement parler de crimes contre l'humanité, voire même de génocide.
Stéphane, je reçois dans la messagerie des messages en direct et quelqu'un m'écrit « Demandez à votre correspondant en Ukraine s'il est au courant de la propagande accusant l'Ukraine de présenter de faux morts, de prétendre que ce sont des victimes des Russes alors que ce seraient des mises en scène. » Qu'est-ce qu'on répond à ce genre de commentaires là, qui accréditent un peu, si on veut, la propagande russe?
Alors, ce sont des commentaires que j'ai bien entendu écoutés, que j'ai entendu, et on parle souvent en ce qui concerne l'Ukraine et les crimes de guerre du cas de Timișoara, cette ville de Roumanie en 1989 où il y avait eu des faux charniers. C'était une situation dont on avait beaucoup parlé à l'époque, et sur la manière dont les médias occidentaux pouvaient éventuellement instrumentaliser une situation de guerre, de crimes contre l'humanité. Mais ce qui s'est passé, c'est que il y a des centaines de journalistes qui sont à Kiev en ce moment. Et lorsque la ville de Boutcha a été libérée, il y avait des centaines de journalistes dans Kiev qui ont pu se rendre là-bas et qui ont vu eux-mêmes les corps. Donc en fait, la manipulation, on peut parler éventuellement de manipulation par vidéo, par photographie, mais lorsque vous avez des dizaines de journalistes qui sont à Kiev, qui se rendent dans les rues de Boutcha et qui voient eux-mêmes des cadavres qui sont où il y a les mains qui sont liées dans le dos, où il y a des balles qui ont été tirées dans la nuque, il est très difficile de parler d'une manipulation. Donc pour moi, ce que je peux dire à ce moment-là, c'est que on est dans une ère aujourd'hui où il y a des moyens de communication qui permettent de rendre compte d'une situation, mais le conflit ukrainien est extrêmement documenté parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont présents de tous les continents, et ce qui s'est passé à Boutcha est vraiment réel. J'ai encore discuté avec un collègue de la télévision suisse aujourd'hui qui s'est entretenu avec les personnes qui sont chargées de récupérer les cadavres à Boutcha, et selon ce journaliste, il y a 90% des victimes de Boutcha qui ont été assassinées par balles. Donc maintenant, on peut forcément par internet très loin mettre en cause la situation, mais aujourd'hui on est dans un monde qui est extrêmement interconnecté, et moi ce que je peux vous dire, c'est que les choses qui ont été vues à Boutcha et dans les environs sont totalement avérées. Moi, je ne suis pas allé à Boutcha directement, mais par contre, je suis allé à Borodyanka, cette ville, et donc j'ai vu ces bombardements, j'ai vu ces bâtiments qui sont absolument effondrés, et donc il est totalement impossible de dire aujourd'hui que ces choses ne se sont pas réalisées.
Merci beaucoup, Stéphane. On se reparle plus tard cette semaine.
À très bientôt.
Au revoir. C'était Stéphane Sion en direct de l'Ukraine.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là,
tout près ici,
très loin là-bas,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.